Merci à vous et bonjour à tous.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
L'État islamique.
La France est attendue pour éviter une catastrophe.
Il n'y a pas que la dictature, le chaos, la violence. Il y a la liberté, la démocratie, le vivre ensemble, la paix.
Bonjour et bienvenue sur France Culture. Nous sommes ensemble tous les dimanches du mois d'août de 12h40 à 14h pour décrypter les grands thèmes de l'actualité internationale. Experts, journalistes, diplomates, ils tenteront sans langue de bois d'éclairer de leurs analyses et de leurs débats la complexité du monde. Cette émission a été enregistrée dans les conditions du direct le vendredi 12 août. Aujourd'hui, nous parlerons des reculs territoriaux de l'État islamique en Syrie, en Libye et en Irak, qui ne signifie pas, loin de là, la mort du djihadisme et la fin du terrorisme. Puis nous irons en Allemagne, où la chancelière Angela Merkel fait face à une chute de popularité sans précédent. Mais d'abord, écoutons la revue d'actualité internationale de Tiphaine de Roquigny. Bonjour Tiphaine.
Bonjour Isabelle.
Le Pakistan a été touché lundi par un nouvel attentat à Quetta, la capitale du Baloutchistan dans le sud-ouest du pays.
Oui, une ville régulièrement frappée par les différentes factions islamistes, mais aussi séparatistes de la région. Le plus souvent, c'est la communauté chiite qui est visée dans cette province sous haute tension, à la frontière avec l'Afghanistan et l'Iran. Cette fois, les djihadistes ont ciblé des avocats. Des dizaines de personnes s'étaient réunies devant l'hôpital de Quetta après l'assassinat du bâtonnier du Baloutchistan quelques heures plus tôt. C'est là, au milieu de la foule, qu'un kamikaze déclenche sa ceinture d'explosifs. 72 personnes sont tuées, plus d'une centaine blessées, et deux groupes revendiquent l'attentat, l'État islamique et Jamaat Ul-Ahrar, une faction du mouvement des talibans pakistanais, le TTP. Georges Lefeuvre est anthropologue, spécialiste des groupes armés dans la région, et pour lui, la responsabilité du Jamaat Ul-Ahrar fait peu de doute.
Ce groupe est un groupe ultra radical qui s'était dissocié des talibans pakistanais, le TTP, en 2014 lorsque Nawaz Sharif, le premier ministre pakistanais, essayait de négocier avec eux pour montrer leur détermination radicale. Ils avaient égorgé 23 soldats, c'était en mars 2014. Ils ont revendiqué beaucoup d'autres choses depuis et eux, ils ont les moyens opératoires dans la région de Quetta, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'État islamique qui est installé surtout en Afghanistan, dans la région de Nangarhar, qui est installée aussi un petit peu dans certaines agences tribales pakistanaises, mais qui sont un petit peu en perte de vitesse. Donc c'est pour ça qu'ils revendiquent, à mon avis, c'est le Jamaat Ul-Ahrar qui a fait ça.
Et selon vous, c'est le mode opératoire de Jamaat Ul-Ahrar qu'on le reconnaît?
Alors,
à quoi?
Oui, c'est tout à fait le mode opératoire. Jamaat Ul-Ahrar donc avait quitté les talibans en 14 et a rejoint les talibans assez récemment, mais avec une marge de manœuvre assez indépendante, ceci dit. Et le Jamaat Ul-Ahrar, qui est la société de la libération, qui s'appelait avant la libération de l'Inde, donc qui indique un petit peu cette volonté de porter le fer et le feu, pas seulement au Pakistan, mais également en Inde, vise toujours à déstabiliser l'État. Et pour déstabiliser l'État, s'attaquer au cours de justice ou, en l'occurrence, à une manifestation d'avocats en faisant un nombre de morts considérable, ça ressemble tout à fait à une action du Jamaat Ul-Ahrar, beaucoup plus que de l'État islamique.
Selon The Hindustan Times, ces attentats sont la conséquence du double jeu du gouvernement pakistanais. Islamabad est officiellement en guerre contre les groupes djihadistes, mais continue de les appuyer en sous-main. Des attaques qui prouvent également le retour en force des talibans dans la région. En Afghanistan, les insurgés islamistes ont lancé une nouvelle offensive dans la province du Helmand, dans le sud du pays. La ville de Lashkarga, qui abrite 200 000 personnes, est encerclée par les talibans. Elle pourrait tomber d'un jour à l'autre. Malgré le soutien des forces américaines à l'armée régulière, les insurgés ne cessent de progresser. Ils contrôlent aujourd'hui près d'un tiers de l'Afghanistan.
Autre zone sous tension, l'Ukraine. Le président Porochenko a placé l'armée en état d'alerte le long de la frontière avec la Crimée.
J'ai ordonné à toutes les unités des forces armées, de la garde nationale, des services de sécurité, et particulièrement aux gardes frontières près de la Crimée et de la frontière Est, de se tenir prêts.
Kiev juge désormais possible une invasion militaire russe après les accusations de Vladimir Poutine mercredi. Le président russe affirme que des attentats terroristes fomentés par les autorités ukrainiennes ont été déjoués en Crimée. Des engins explosifs et plusieurs dizaines de kilos de TNT auraient été découverts et un soldat et un agent russe auraient perdu la vie. Lors d'une conférence de presse, le chef du Kremlin a dénoncé le jeu très dangereux de l'Ukraine.
Ce sont des informations très dérangeantes. Les gens qui se sont emparés du pouvoir à Kiev sont passés à la terreur.
Aucune preuve de ces incursions n'a cependant été apportée par le Kremlin, qui annonce également un renforcement de la sécurité en Crimée. Le président ukrainien dénonce des accusations absurdes et cyniques qui ne sont qu'un prétexte à de nouvelles menaces militaires. Comme le rappelle le New York Times, des discours et des manœuvres similaires avaient servi de couverture en février 2014 à l'invasion de milices pro-russes en Crimée. D'autres experts estiment que Moscou ne prépare pas la guerre mais cherche avant tout un levier diplomatique. 2 ans après l'annexion de la péninsule par la Russie, Washington s'est déclaré extrêmement inquiet face au risque d'un nouvel embrasement de la région.
Après 27 ans de règne, l'empereur du Japon ouvre la voie à son abdication.
J'ai plus de 80 ans. Alors même si j'ai la chance d'être en bonne santé pour le moment, je crains de ne plus être capable de remplir mes fonctions en tant que symbole de l'État, comme je l'ai fait jusqu'à présent.
Les mots rares de l'empereur Akihito qui s'adressait directement à son peuple pour la 2e fois depuis son accession au trône. Le souverain de 82 ans, soumis à des charges très lourdes, souhaite abdiquer, mais la Constitution ne l'y autorise pas. En prenant ainsi le peuple à témoin, il pousse le gouvernement de Shinzo Abe à modifier l'article 2 qui régit la succession impériale. Et cela alors que le Premier ministre conservateur a annoncé son intention de réviser l'article 9, garant du pacifisme au Japon. Les deux événements ne seraient pas indépendants selon Franck Michelin. Il est professeur d'histoire à l'université Meiji à Tokyo.
L'empereur ne va pas partir tout de suite. Par contre, il ne serait pas impossible, mais ça de toute façon l'empereur ne le dira jamais ouvertement, que son action soit faite un petit peu pour gêner la tentative de réforme de la Constitution de la part d'Abe. Puisque s'il faut modifier d'abord cette partie de la Constitution, cela risque d'entraver son projet de réforme. Et en plus, tout le monde sait très bien que l'empereur tient énormément à l'article 9, c'est-à-dire l'article qui prohibe l'utilisation de la force armée. Ce qui est particulièrement frappant concernant l'empereur actuel, c'est qu'il a un petit peu, pas outrepassé ses prérogatives, mais joué un rôle beaucoup plus actif qu'il jouait jusque-là. Le fait d'aller sur des lieux où il y a eu des massacres, des hécatombes pendant la guerre, c'est faire comprendre aux Japonais que le Japon a quand même été engagé dans un conflit qu'il a pratiquement détruit et qu'il ne faut surtout pas reproduire ce type d'erreur.
Pour l'heure, le Premier ministre Shinzo Abe a déclaré, je cite, « recevoir avec sérieux les mots de Sa Majesté l'Empereur et y réfléchir profondément ».
Merci Tiffaine, nous vous retrouverons tout à l'heure pour le portrait de la semaine. En Libye, les djihadistes de l'État islamique sont encerclés par les forces pro-gouvernementales dans leur bastion de Sirte, leur principale base hors du Levant. En Syrie, leur capitale Raqqa n'est plus qu'à quelques kilomètres des premières lignes kurdes. En Irak, les États-Unis et la coalition font monter la pression autour de Mossoul, la capitale de Daesh. Le vent tourne pour les combattants du djihad. En 2014, l'instauration du califat avait fait disparaître les frontières entre l'Irak et la Syrie. Les pertes territoriales subies par l'organisation terroriste depuis plusieurs mois vont-elles les faire ressurgir ? Seule certitude, le recul de Daesh n'annonce ni la fin du terrorisme, ni la mort du djihadisme. Il ne s'est pas traduit par un reflux des actions terroristes, au contraire, le Ramadan 2016 a été particulièrement meurtrier. C'est l'un de leurs avantages sur les forces conventionnelles occidentales, les djihadistes ont une très forte capacité d'adaptation et d'anticipation. Daesh a déjà commencé sa mutation, dispersant ses troupes, éparpillant ses combattants au sein d'une multitude de cellules clandestines dissimulées au cœur des démocraties occidentales ou au sein des populations sunnites irakiennes et syriennes. Engagée dans une stratégie de long terme, l'organisation modifie ses méthodes, contourne les réponses des forces locales et de la coalition. Même chassés de Syrie, d'Irak ou de Libye, les combattants de Daesh n'auront que l'embarras du choix pour se recycler, s'installer dans un autre État failli, au Sahel ou au Yémen, gagner ou regagner l'Europe, ou encore rejoindre d'autres organisations terroristes comme Fatah al-Sham, l'ancien front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Alors que se prépare la bataille d'Alep entre les insurgés syriens et les forces du régime, c'est justement ce mouvement Fatah al-Sham qui est à l'avant-garde des combats. La branche syrienne d'Al-Qaïda a beau avoir changé de nom, elle conserve les mêmes objectifs, l'établissement d'un émirat islamique et l'instauration de la charia. Ses récents succès dans la grande ville du nord de la Syrie placent les Occidentaux dans l'embarras. Soutien déclaré de l'insurrection face au régime de Damas, il se retrouve de facto partenaire d'Al-Qaïda. Avec nous pour en débattre, Michel Goya, ancien colonel de l'armée de terre. Vous êtes aussi historien. On citera votre dernier ouvrage, « Sous le feu », paru chez Talendier. Bonjour Michel Goya.
Bonjour.
Ala Khodmani, journaliste franco-syrienne, vous travaillez au journal Libération. Vous avez publié en 2014 « La Syrie promise » aux éditions Sinbad. Bonjour Ala Khodmani.
Bonjour.
Et avec nous au téléphone, Dominique Thomas, spécialiste des mouvements djihadistes et chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous publierez bientôt, Dominique Thomas, aux éditions Michalon, votre prochain livre « Génération djihadiste, Al-Qaïda ». État islamique, histoire d'une lutte fratricide. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Michel Goya, on assiste depuis plusieurs mois au rétrécissement des zones tenues par Daesh au Levant et en Libye. Est-ce que c'est la fin de la territorialisation de l'État islamique ?
Alors, bon, effectivement, l'État islamique recule, perd un certain nombre de villes. Ils ont perdu Palmyre, ils ont perdu Ramadi, la capitale de la province irakienne d'Anbar, au début de l'année. Ils viennent de perdre maintenant la ville de Fallujah. Donc, effectivement, ils reculent sur le terrain. Mais ce n'est pas la première fois. Hein. L'an dernier aussi, ils avaient perdu un certain nombre de villes. Mais ils avaient été capables de revenir. Ils avaient été capables, quelques semaines après la prise de Tikrit, ils avaient été capables de lancer une offensive surprise sur Ramadi, qui avait dégonflé un peu toute la bulle d'optimisme qui commençait à gonfler à ce moment-là. Ce qui est significatif, c'est que pour l'instant, effectivement, ils ne sont pas capables de tels retours offensifs. Ils essaient bien, sur le Frat en particulier. Ils sont capables de mener des campagnes de terroristes. Ça a été le cas d'attentats à Bagdad. Mais pour l'instant, effectivement, ils semblent, sur le terrain, ils semblent reculer en Irak. Et puis, il y a aussi le front invisible, c'est-à-dire que ça, les reculs sur le terrain, on le voit bien. Le front invisible, c'est leur difficulté croissante à recruter. C'est-à-dire beaucoup plus difficile maintenant de trouver des volontaires étrangers qui puissent venir simplement, hein. Le filtrage est plus important, ils subissent une pression forte.
Alors,
sur
justement,
sur leur dirigeants aussi.
C'est la question que j'allais vous poser. Comment on peut expliquer ce changement ? À quoi l'imputer ? Est-ce que c'est les bombardements de la coalition ? Est-ce que c'est un regain d'énergie des insurgés ? Ou justement, cette difficulté qu'ils ont à recruter, pourquoi ?
C'est un ensemble, hein. C'est-à-dire que effectivement la frontière turque déjà est un peu plus hermétique pour une raison peut-être politique, et puis ensuite pour une raison concrète sur le terrain, les voies de passage se sont très largement rétrécies, donc leur capacité à recevoir des renforcements de l'étranger se rétrécit. Sur place, effectivement, ils ont une pression forte, hein. L'action de la coalition a des effets, hein. On estime qu'il y a peut-être un quart ou un tiers des dirigeants des cadres supérieurs de l'organisation qui ont été tués, qui ont été éliminés. Donc il y a un renouvellement, tout ça exerce une pression très forte. Pour autant, la route est encore longue, hein. On est encore loin de la disparition territoriale de Daesh. Ça peut se faire très vite, hein. Il peut y avoir des effondrements, il peut y avoir des scissions intérieures, ça s'est déjà vu. L'État islamique a failli disparaître en 2008 et de manière relativement spectaculaire, je dirais, à l'époque. Mais le plus probable, c'est quand même encore un combat relativement long. Il faut des mois pour prendre une ville tenue par Daesh. Il faut bien comprendre, hein. Il faut des semaines de préparation, des semaines de combat, et puis ensuite ça dure encore des semaines parce qu'à l'intérieur il y a encore la ville est pourrie, je dirais, par des combattants qui restent, des combattants kamikazes, des engins explosifs, etc. Et l'État islamique perd relativement peu de combattants. Là, je parle un peu de technique militaire. Il ne s'accroche pas forcément dans les villes. Ce n'est pas Stalingrad. Hein. Il laisse une brigade, un millier de combattants qui sont là pour mourir et qui sont là pour tenir le maximum de temps. Donc, les forces de l'État islamique ne sont pas saignées, ne sont pas détruites, ravagées dans un combat urbain. Donc, le combat est encore long. Je dirais presque que d'une certaine façon, le plus facile, entre guillemets, a été fait. C'est-à-dire que beaucoup plus facile pour l'armée irakienne de combattre à Fallujah, de s'emparer de Fallujah à 50 km de Bagdad, que de s'attaquer à Mossoul, une ville beaucoup plus importante, beaucoup plus loin, dans une zone beaucoup plus diverse, avec des enjeux politiques très variés. Et ce qui fait d'ailleurs que, en grande partie, le gouvernement irakien a longtemps hésité, alors que les Américains prônaient depuis toujours une attaque directe sur Mossoul, la capitale économique de l'État islamique. Les Irakiens sont beaucoup plus prudents. Donc on est encore loin, ne serait-ce que de la destruction du califat en tant qu'espace politique. Et même cela ne suffira certainement pas à détruire l'organisation.
D'accord. Et vous, Alaa Kodmani, quelle est votre analyse sur les échecs des combattants djihadistes ?
Je crois que, bon, pour l'instant, effectivement, il y a encore les très gros morceaux. L'histoire du territoire de Daesh est très important pour l'organisation, qu'il reste une terre de califat pour garder, non seulement, c'est vrai que le recrutement baisse pour des raisons objectives et pour des raisons... l'existence d'un territoire, qui est une grande nouveauté pour un mouvement comme ça, pour un si grand territoire, elle reste important. Et pour le moment, bon, ils viennent de perdre en Syrie aussi une ville du nord qui est même beige. Il y a un rétrécissement, mais les places fortes sont encore là. Mossoul, qui est quand même la deuxième ville d'Irak, c'est pas rien. Raqqa, et ils vont essayer de, à mon avis, de garder le plus longtemps possible cette fiction de... Non, c'est pas une fiction, c'est une réalité de ces grandes villes, de ces places fortes, pour justement ne pas perdre en crédibilité. Dans le même temps, ils tiennent surtout des populations civiles, un très grand nombre, et on oublie ça, en otage dans ces villes-là. C'est-à-dire, Mossoul, c'est maintenant un peu plus d'un million d'habitants irakiens. Raqqa, c'est encore 300 000 Syriens natifs de Raqqa qui sont encore sur place. Et donc là, je crois qu'ils savent qu'ils tiennent encore, ils ont les moyens de jouer avec ça.
Dominique Thomas, est-ce que vous pensez, vous, que c'est la fin du califat qui avait été instauré par Daesh au Levant, enfin en tout cas à moyen terme? Est-ce qu'on peut espérer la mort de l'organisation, ou est-ce que tout ça est un peu trop rapide à annoncer?
Oui, effectivement, je pense que c'est un peu trop rapide à annoncer, parce que, comme cela a été dit, l'État islamique continue à avoir une présence territoriale, et l'État islamique s'est construit sur cette territorialisation, justement, pour concrétiser la proclamation du califat. Il leur fallait un territoire. Et ça fait partie c'est un pilier de leur idéologie, la territorialisation. Donc il faut qu'ils continuent, sinon le califat sera virtuel ou symbolique. Ils continueront naturellement à revendiquer un État islamique, comme ils l'ont fait après 2008. L'État islamique en Irak a continué d'exister de manière virtuelle et de manière clandestine. Il faut rappeler quand même une chose, c'est que l'État islamique, dans son expansion, a proclamé environ entre 16 et 17 ce qu'ils appellent des wilayas extérieures. Bon, ces wilayas extérieures, il y en a énormément qui sont symboliques. Il n'y a pas de contrôle territorial. Finalement, l'État islamique, à part la Syrie et l'Irak, n'avait un contrôle territorial uniquement sur quelques villes du littoral libyen, c'est-à-dire notamment Sirte, Naufalia et quelques autres villes du littoral. Et puis il y a cette wilayat du Khorasan qui, dans la province du Nangarhar, où quelques districts sont contrôlés par des hommes armés qui se revendiquent de l'État islamique. Après, les autres wilayas sont uniquement Il y a la particularité de Boko Haram et la wilaya d'Afrique de l'Ouest qui est, elle, aussi différente. Vous avez les Philippines qui sont aussi différents parce que c'est un groupe, Abu Sayyaf en partie, qui s'est dissocié, qui a rejoint l'État islamique. Mais toutes ces wilayas extérieures, que ce soit le Yémen, l'Arabie Saoudite, vous en avez trois en Libye, l'Afrique de l'Ouest, la wilaya du Sinaï, qui est très active militairement, mais qui ne contrôle pas de territoire. Finalement, l'État islamique est capable de revendiquer un califat qui est assez virtuel, à part la Syrie et l'Irak, mais tout en maintenant
et la Libye, non
cet effet, si vous voulez, d'une expansion territoriale. C'est une organisation qui est très volatile, qui est capable de muter très rapidement, et elle est capable de redevenir une organisation classique de guérilla avec des cellules clandestines, tout en maintenant dans sa communication sur Internet notamment et à travers les réseaux sociaux un califat qui n'aurait, je dirais, qu'une existence finalement dans la djihadosphère. Hein.
Mais quand même, comment vous expliquez le relatif effritement des positions de Daesh? Enfin, par exemple, en Libye, à Sirte, il se passe quand même vraiment quelque chose. Ils sont vraiment sur la position défensive. Alors même si c'est provisoire et même si c'est un petit peu de la poudre aux yeux, comment vous expliquez qu'ils reculent dans certaines parties de leur califat?
Alors, ça n'est pas forcément de la poudre aux yeux. C'est, d'abord, il y a des effets de contexte qui peuvent être modifiés. Les restrictions, on a vu le recul territorial, que ce soit en Syrie ou en Irak, a été en grande partie du fait des opérations, des bombardements de la coalition, mais aussi d'une volonté à la fois de l'État irakien, des forces kurdes en Syrie, des forces kurdes du Nord, à la fois d'une partie du régime soutenue par la Russie pour la reprise de Palmyre, et d'un certain nombre d'autres forces pour pouvoir conjuguer des efforts et finalement maintenir la pression. Et c'est une guerre d'usure qui s'est mise en place. En Libye, c'est très frappant de voir que beaucoup de gens ont oublié ce qui s'est passé il y a quasiment un an à Derna. Dans la ville de Derna, il y a eu un net recul de l'État islamique qui a été chassé de la ville par des autres milices islamistes concurrentes, qui étaient d'ailleurs beaucoup plus connectées avec une philosophie plus proche de celle d'Al-Qaïda, et qui a littéralement expulsé, suite à des incidents entre ces factions, l'État islamique de Derna, qui était le principal fief, au départ, hein, historique de l'État islamique dans ce territoire libyen. Ensuite, il y a eu une conjonction de facteurs, notamment les offensives du général Haftar sur Benghazi, qui ont largement réduit les poches à la fois de l'État islamique et des autres groupes dans cette ville. Vous avez eu également, après la proclamation du gouvernement d'union nationale, une volonté de s'attaquer à la poche de Sirte. Et là, vous avez eu la coalition du gouvernement d'union nationale avec les milices de Misrata qui se sont mis à attaquer par l'ouest la ville de Sirte. Et ensuite, il y a eu la conjonction par l'est des milices qui protègent les sites pétroliers qui se sont mis aussi à lancer des offensives sur Sirte. C'est donc finalement cette prise en étau où finalement l'État islamique avec quelques unités, des combattants, on a dit ils sont 5000, bon, on s'aperçoit qu'ils étaient quand même largement moins dans la ville de Sirte, n'arrive pas à faire face à tout l'ensemble de ces fronts et se transforme aujourd'hui, en maintenant une poche dans le centre de la ville, se transforme en organisation clandestine avec des offensives, des guérillas, des attaques, des embuscades, des IED qui sont placés sur des routes ou des snipers. Et c'est comme ça que cela va continuer. Mais aujourd'hui, il est vrai que l'État islamique en Libye a perdu une grande partie de ses forces par la conjonction de facteurs d'un nouveau contexte, à la fois de forces gouvernementales, mais aussi, il faut le dire, des autres forces islamistes concurrentes qui ont en partie affaibli l'État islamique parce qu'elles ne partagent pas le même agenda politique et elles sont parvenues aussi à affaiblir l'État islamique. Et l'État islamique en Syrie, n'est pas parvenu également à étendre son territoire parce qu'il y a la concurrence cette organisation que vous avez citée qui s'appelait le Jabhat al-Nusra et qui s'appelle aujourd'hui Fatah al-Sham.
Voilà, on va en parler dans une grande partie. Peut-être qu'un jour je vais être un peu cynique, on considérera que Daesh est complètement has-been dans la nébuleuse des groupes djihadistes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que son recul en Syrie, en Libye et en Irak ne signifie pas
la fin des djihadistes ni celle du terrorisme. Michel Goya, comment les combattants de l'État islamique s'adaptent-ils à cette nouvelle donne ?
Alors, bon, il faut rappeler que l'État islamique existe de fait depuis déjà un certain temps, depuis 2003. L'organisation d'Abu Musab al-Sarkawi, elle existe sous ce nom depuis 2006, le nom État islamique. Donc c'est pas nouveau et cette organisation a passé la plus grande partie de son existence dans la clandestinité. On voit bien d'ailleurs dans les discours un petit peu actuels qu'ils disent, bon, finalement, le territoire, c'est pas forcément l'essentiel. Il y a une tendance quand même à se préparer à un retour à une clandestinité. Donc c'est quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils ont longuement pratiqué et qu'ils pourront reconnaître, sachant que là aussi, si l'État islamique a pu subsister malgré tout, ce n'est pas pour rien. Et s'il a pu revenir au premier plan, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des conditions objectives sur place qui ont permis leur succès. Derrière tout ça, il ne faut pas oublier, derrière l'action militaire, je citerai De Gaulle. De Gaulle disait, voilà, l'action guerrière n'a de sens que si elle est au profit d'une politique. Bon. Là, si derrière tous ces combats, on peut se féliciter effectivement du recul, c'est pourquoi ? C'est pour quelle fin politique ? Quel est l'état final recherché, pour employer un terme militaire à la fin ? Bon, si c'est pour rétablir le gouvernement irakien dans son autorité sur l'ensemble du territoire, et si c'est pour revenir à ce qui se passait précédemment, il est probable que la contestation locale va continuer d'une autre façon et qu'il y aura forcément des soutiens pour l'organisation État islamique et peut-être même et sans doute aussi pour d'autres organisations. Quid de la Syrie également, même si on prend Raqqa, qu'est-ce qui va se passer après? Qui va prendre Raqqa? Est-ce que ce sont les Kurdes qui vont prendre Raqqa? Est-ce qu'ils vont y rester? Est-ce qu'ils ont envie, vocation de rester dans cette province sunnite? Est-ce que c'est l'État syrien qui va réussir à reprendre pied sur l'Euphrate? Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a une incertitude politique extrêmement forte, et c'est dans cette incertitude dans les interstices de cette incertitude, que peut à nouveau survivre l'organisation.
À la Khomeini, quelle est la stratégie de Daesh aujourd'hui en Syrie?
Ah bon, je me permettrai pas de
votre dire vision que je sais de ça. La stratégie de Daesh.
J'aurais beaucoup de si je savais ça, je serais la reine du monde. Non, je crois que bon, ils anticipent un peu, mais ils sont très pragmatiques et ils jouent ils font au jour le jour, hein. J'ai pas l'impression qu'il y a des gros préparatifs ou que c'est, enfin du moins c'est l'impression, j'ai encore quelques témoignages des gens qui vivent sous le contrôle, dans les territoires sous le contrôle de Daesh, qui subissent beaucoup, hein, depuis qu'ils sont tendus, qui perdent du territoire, qui perdent des moyens financiers, etc. Maintenant, je peux pas évidemment anticiper, mais je crois effectivement que c'est très important de savoir qui va mener la bataille contre Daesh. Et surtout, qui va prendre le contrôle après? Et ça, c'est fondamental. Et j'ai peur que ce soit en Syrie ou en Irak. En Irak, c'est plus évident parce qu'il y a un État, un gouvernement avec lequel tous les partenaires internationaux peuvent, même s'il est défaillant, corrompu, avec plein de problèmes. Mais en Syrie, c'est beaucoup plus difficile parce que, comme on l'a vu auparavant, c'est comment se termine l'histoire que on peut voir que c'est l'après Daesh. Il faut préparer l'après Daesh, comme on a très mal préparé l'avant Daesh, qui a permis d'ailleurs l'émergence en Syrie quand même. C'est en préparant l'après que on peut aujourd'hui décider la bataille.
Oui, parce que l'État islamique n'est pas le seul problème.
Non, non, en Syrie, enfin, il n'est pas le seul problème. C'est quand même un gros problème, mais l'État islamique s'est installé parce qu'on n'a pas résolu le problème syro-syrien ou le problème régional. Je veux dire, jusqu'en 2013, il n'y avait pas de djihadistes ou presque en Syrie. Il n'y avait en tout cas pas Daesh, et c'est de laisser pourrir, d'avoir laissé pourrir la situation syrienne, de n'avoir pas soutenu à temps ceux qui n'étaient pas les djihadistes, qu'on en est arrivé là.
Worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. People run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world.
À l'instant sur France Culture, Mad World de Gary Jules.
Une semaine dans le monde, Isabelle Lasserre.
Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Alaa Khodmani, Dominique Thomas et Michel Goya, pour parler des récents reculs de Daesh et de leurs conséquences. À Alep, c'est Fatah al-Sham, l'ancien front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, considérée comme une organisation terroriste par les Américains, qui a joué un rôle clé dans l'offensive menée par les insurgés contre les forces du régime. Alors, Dominique Thomas, ce n'est pas parce que le front al-Nusra a changé de nom qu'il est devenu présentable et modéré, n'est-ce pas ?
Oui, c'est un petit peu ce que l'on peut dire, c'est-à-dire que, si vous voulez, on a beaucoup parlé d'une rupture lorsque l'émir de cette organisation, Abu Muhammad al-Jolani, a annoncé que finalement la dissolution du Jabhat al-Nusra et se réorienter vers un projet national avec un nom d'ailleurs qui fait référence à la Syrie puisque l'organisation s'appelle Fatah al-Sham, la conquête du Sham de la Syrie. Cette annonce, on a oublié qu'il ne s'agissait pas d'une rupture avec Al-Qaïda au sens littéral du terme puisque à la droite de Jolani se trouvait l'un des cadres de l'organisation d'Al-Qaïda qui était l'Égyptien Abu Faraj al-Masri. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu d'abord une émancipation politique du Jabhat al-Nusra envers Al-Qaïda, qui a obtenu avec la concertation de l'organisation Al-Qaïda une émancipation pour élargir son projet pour la Syrie, son projet national, et peut-être renoncer à avoir un agenda internationaliste tourné vers le djihad global tel que le définit tel que le définissent les idéologues d'Al-Qaïda. Donc c'est un peu ça qui s'est passé. Ce changement de nom était voulu depuis longtemps par l'organisation parce qu'elle estimait que ce lien trop fort avec Al-Qaïda, trop perçu comme étant problématique, contre-productif, empêchait cette organisation d'élargir son alliance avec d'autres factions armées syriennes pour pouvoir mener à bien sa reconquête du territoire et lutter contre le régime. Donc, faut rappeler que depuis plus d'un an maintenant, l'ex-Jabhat al-Nusra s'est allié. C'était pour la première fois d'ailleurs qu'une organisation liée à Al-Qaïda faisait des alliances avec d'autres groupes, s'était alliée avec une dizaine d'autres organisations dans le nord-ouest de la Syrie pour reprendre progressivement la région d'Idlib. Et cette région-là est devenue le fief, le bastion de l'ensemble de ces groupes. Qu'est-ce que l'on a dans cette coalition qui a pris le nom de Armée de la Conquête, Jesh el-Fatr ? On a des groupes armés syriens. On a le Jabhat al-Nusra et on a un nombre important de petites factions composées essentiellement de combattants étrangers. Alors vous avez des gens qui viennent notamment d'Asie centrale, vous avez des Ouzbeks, vous avez des gens qui viennent de Turkestan oriental, vous avez des Tchétchènes, des gens du Caucase, vous avez également des gens qui viennent du Maghreb, qui sont reliés à des organisations, des petites katibates, d'ailleurs qui sont souvent, et c'est là où on est dans la sociologie politique de la Syrie aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des coalitions sur des coalitions, une volatilité extrêmement importante, des allégeances de temps en temps qui changent. Mais pour faire court, si vous voulez, on a aujourd'hui cette coalition qui est quand même relativement soudée, avec notamment une autre organisation syrienne très importante qui s'appelle Ahrar al-Sham, qui fait partie de cette coalition. Et c'est l'ensemble de cette coalition qui réussit pour l'instant à progresser parce qu'elle a une stratégie la réorientation du projet du Jabhat al-Nusra vers uniquement un projet national syrien lui permet de renforcer ses alliances avec des groupes syriens qui voyaient la main ou l'influence d'Al-Qaïda pas forcément d'un très bon œil. Mais dans les faits, les stratèges et les idéologues d'Al-Qaïda, ou les conseillers, un peu, c'est un peu ça, hein, le rôle d'Al-Qaïda en Syrie, c'est pas de mettre en place une organisation, c'est de mettre en place des conseillers, des facilitateurs, des artificiers, éventuellement des gens, des ingénieurs, des spécialistes, pour pouvoir aider les groupes à armés syriens. Le projet d'Al-Qaïda en Syrie, c'est ça. Et ces conseillers-là, ces facilitateurs, ils sont toujours présents. Les combattants étrangers qui se revendiquent de la mouvance d'Al-Qaïda, ils continuent à combattre au sein de cette coalition. Et qu'est-ce qu'on a vu, par exemple, il y a quelques jours à peine, lorsque une partie des quartiers d'Alep ont été récupérés, reconquis par ces organisations, on a vu apparaître sur des chars un personnage, notamment le Saoudien Abdal al-Muhaisini, qui est un Saoudien qui est arrivé en Syrie depuis 2012, et qui est, je dirais, le symbole de ces forces, de ces prédicateurs étrangers qui viennent d'Arabie Saoudite et qui partagent énormément les conceptions d'Al-Qaïda, qui en est très proche. Et donc on voit bien que, justement, tout cet ensemble de forces et de conseillers, de facilitateurs de la mouvance d'Al-Qaïda, comme l'a défini d'ailleurs la stratégie d'Al-Zawahiri depuis maintenant plusieurs années sur cette région, continue à être présent. Et finalement, c'est un changement de nom, c'est une émancipation politique, voilà. Mais ça n'est pas une rupture.
Oui, alors je voulais poser une question à Alaa Kodmani. Est-ce que vous pensez que Fatah al-Sham, donc l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda, peut être un partenaire ou est un partenaire nécessaire pour les Occidentaux? C'est un peu gênant, non?
Je voudrais... il n'est pas bon. Je vais revenir là-dessus. Je voudrais quand même compléter ce que Dominique Thomas vient de dire en insistant énormément sur le côté rattachement Qaïda et éléments extérieurs dans ce front al-Nusra que je continue à appeler front al-Nusra parce que j'ai l'habitude. Je dirais quand même que, à la différence, par exemple, de l'État islamique, à la grande différence, ce groupe s'est très bien implanté dans la société syrienne, qu'il a recruté qu'aujourd'hui 80% de ses combattants sont syriens, même s'il y a bien sûr quelques djihadistes qui viennent de l'extérieur, qu'il est notamment... Moi, je l'ai vu un peu grandir, si j'ose dire, depuis 2012. C'est vraiment, il a une implantation locale qui joue quand même sur le fait que sa priorité est quand même syrienne. Avant d'avoir un projet, enfin bien avant le projet djihadiste, c'est vraiment un projet anti-régime syrien certainement. Et... l'implantation très locale et très syrienne du mouvement, je dirais ne m'inquiète pas, mais tempère un petit peu la peur d'Al-Qaïda.
Oui, enfin je ne sais pas si tout le monde à Idlib serait d'accord avec vous, Alaa Kodmani, quand le front al-Nusra a pris la ville et s'est implanté justement dans la ville, il a quand même fait régner...
Je suis pas en train de dire
et les
que
chrétiens
c'est
aujourd'hui
gentil,
à Alep s'inquiètent d'ores et déjà du fait que Al-Qaïda pourrait prendre la relève. Alors, j'en reviens à ma question. Est-ce qu'on est obligé
aujourd'hui de considérer l'ancienne Front al-Nosra, c'est-à-dire l'ancienne Al-Qaïda, enfin les Occidentaux, ceux qui ont vaincu les talibans et Al-Qaïda en 2001, est-ce qu'on est obligé de les considérer comme un partenaire ou est-ce qu'en fait la question se pose pas ?
Qui est partenaire ? Pourquoi partenaire ? De toute façon, les Occidentaux ne soutiennent pas vraiment toute cette offensive. Je veux dire, on peut pas considérer comme des partenaires, bien sûr que non.
Non, mais sauf qu'on soutient.
Ce ne sont pas des partenaires.
Non, mais on soutient les rebelles syriens à Alep qui sont alliés avec les djihadistes d'Al-Qaïda.
Alors, la bataille d'Alep a été quand même très habilement. Joué hein, par les combattants à Alep. L'armée de la conquête dont fait partie l'ex-Nosra, ça s'appelle comme ça. Il y a un autre front des combattants d'Alep qui coordonnent et qui, eux, sont directement soutenus très peu, faut pas non plus, par quelques armes et quelques moyens des Occidentaux, enfin de toute une chambre d'opération qu'on dit à une alliance entre l'Europe, les États-Unis et les pays du Golfe. Donc bon, c'est pour sauver les apparences, on a fait ça. Maintenant, c'est vrai que tout le problème, c'est les questions de priorité et de comment on fait. Il y a maintenant une force qui affronte, à Alep notamment, le régime syrien. C'est dans la nature du combat qu'on va en fait déterminer. C'est pas en fonction des acteurs, ni en fonction de leurs idées, ni en fonction. C'est quel est le combat dans lequel ils sont engagés. Et je crois que, surtout pour les Syriens, c'est la priorité. Dis-moi qui tu combats, je te dirai si je t'aime ou pas, ou si je veux de toi ou pas.
Michel Goya, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'il existe encore déjà des combattants rebelles modérés en Syrie, et notamment à Alep ? Et comment vous répondrez-vous, notamment d'un point de vue militaire, à la question comment on fait ?
C'est une excellente question. Mais il faut rappeler qu'effectivement, l'ex-organisation Al-Nosra et d'une manière générale la coalition armée de la conquête, c'est la force rebelle la plus efficace sur le terrain. Elle tient une province quasiment complète à Idlib. C'est la moitié des zones rebelles tenues en Syrie, hors l'État islamique, c'est la province d'Idlib qui constitue de fait un deuxième émirat à côté de l'État islamique, hein, plus petit, mais il y a quand même là aussi de territorialisation hein, depuis un an, que c'est cette conquête de la province d'Idlib qui a suscité l'intervention russe pour sauver le régime qui était mis à mal. Bon, donc il y a une sorte au sein de la mouvance des mouvements rebelles, l'armée de la conquête constitue une sorte de superpuissance, quoi, hein, très, très clairement. Après, il y a une multitude de mouvements, bien sûr, dont certains, on aurait pu, nous, occidentaux, jouer un peu plus sur certains. On l'a pas fait, on a sous-traité largement le soutien aux rebelles, l'Arabie Saoudite et aux monarchies, enfin au Qatar, qui eux ont leur propre agenda. Tout ça est un peu tard. Et puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est après, que veut-on ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Quelle vision on a de la Syrie ? Qu'est-ce qu'on veut à la fin de l'affaire ? Est-ce qu'on veut un régime démocratique ? Est-ce qu'on veut la stabilité ? Est-ce qu'on veut la paix de toutes les manières possibles ? Pour l'instant, rien n'est tranché à la matière. Donc on reste très ambigu sur cette affaire. On a très certainement loupé un certain nombre d'opportunités, raté complètement un certain nombre d'opportunités. On a trahi un certain nombre d'espoirs aussi, et qui ont tout cela ont contribué à une radicalisation globale des mouvements rebelles. Maintenant, on se retrouve encore une fois, nous occidentaux et particulièrement nous français, dans une situation, on se trouve coincé quoi politiquement dans cette affaire entre des solutions qui dont aucune n'est vraiment satisfaisante.
La bataille d'Alep, elle va être longue?
Toutes les batailles en Syrie sont longues, hein. Il ne faut quand même pas l'oublier, c'est compliqué, ça dure des mois. Puis la bataille d'Alep, elle dure depuis des années en réalité. Donc c'est un siège, c'est une sorte de double siège, une imbrication de double siège, extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Les combats, encore une fois, là, durent des mois, des semaines, des mois, pour avoir une décision. On se bat sur toute cette ligne nord d'Alep jusqu'à Dera, enfin c'est une ligne nord-sud, en passant par Homs, par les banlieues de Damas depuis des années. Il n'y a aucune force actuellement qui a la masse critique pour l'emporter définitivement sur une autre. Donc on est une situation qui peut durer encore très longtemps.
Aus meinem Kopf, Süße, alles woran ich denken kann, ist, ich krieg es nicht aus meinem Kopf, Süße, alles an was ich denke ist, la la la, la 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 la, ich kriege es nicht aus meinem Kopf, Süße, alles woran ich denken kann, ist, ich krieg es nicht aus meinem Kopf, Süße, alles an was ich denke ist, jeden Tag und jede Nacht wünsch ich mich in deinen Arm, bleibst du
à l'instant sur France Culture, le groupe allemand Erdmobel.
Une semaine dans le monde, Isabelle Lasserre.
Et tout de suite, le portrait de la semaine avec vous, Tiffaine. Aujourd'hui, vous tentez de percer le mystère de la chancelière allemande, Mutti Merkel, la maman, comme la surnomment les Allemands.
Oui, pour certains, elle est une femme presque comme les autres, une dirigeante qui fait ses courses au supermarché Aldi et n'hésite pas à recycler sa robe de gala portée au festival de Bayreuth. Pour d'autres, elle est cette reine non couronnée d'Europe, une nouvelle dame de fer insensible aux souffrances des Grecs et des travailleurs allemands. Les 11 ans qu'Angela Merkel a passé au pouvoir n'ont pas épuisé les comparaisons. Mère la rigueur ou Mère Teresa, caricaturée en Bismarck ou en Hitler, elle est applaudie ou décriée, mais toujours largement sous-estimée. Dans les années 90, on se moque de ses jupes longues cousues main et de son accent décis, ce surnom peu flatteur donné aux Allemands de l'Est. Elle fait sa place à petits pas, c'est sa méthode, et écarte ses rivaux un à un. La Mädchen, la gamine, comme l'appelait Helmut Kohl, est devenue la femme la plus puissante de l'année 2015, selon le Time Magazine. Depuis la chute de Lehman Brothers, la chancelière fait figure de roc inébranlable au milieu des crises. Sans jamais perdre cet air un peu renfrogné, ni cette posture devenue sa signature, les doigts en losange sur le ventre. Sa politique généreuse envers les réfugiés a fait dégringoler sa cote de popularité. La perspective d'une réélection en 2017 s'éloigne. Qu'importe, Angela Merkel prend le risque. La fille de Pasteur qui dirige l'Allemagne n'a pas oublié ses valeurs, encore moins ses origines. Il y a près d'un siècle, c'est son grand-père qui traversait la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. À Poznan, il était Ludwig Kazmierczak. À Berlin, il devient Herr Kastner. Des années plus tard, Angela Dorothea Kastner, élevée à Kitzau puis à Templin à l'Est, défend sa politique d'accueil vent debout. Wir schaffen das, répète-t-elle, nous allons y arriver. C'est sans doute le deuxième plus grand risque politique de sa carrière. Le premier remonte à l'hiver 99. La CDU, le parti chrétien-démocrate, est alors éclaboussée par un scandale de corruption. Et la secrétaire générale du parti appelle au départ d'Helmut Kohl, le président d'honneur. La lettre ouverte paraît dans la presse le 22 décembre. Angela Merkel le sait, elle pourrait tout perdre ce soir-là. Mais c'est un coup gagnant, elle prend la tête de la CDU 3 mois plus tard. Libérale convaincue à ses débuts, elle effectue un virage au centre et flirte aujourd'hui avec les Verts. Son mot d'ordre, le pragmatisme, et tant pis pour ceux qui lui reprochent son absence d'idéologie ou sa lenteur. La vie de l'autre côté du mur lui a appris la patience. Elle avait 35 ans quand le rideau de fer est tombé. Sa carrière politique démarre à ce moment-là. Elle abandonne la physique et rejoint le gouvernement de l'Est chargé de la réunification. Malgré un père surnommé Kastner le Rouge et une mère encartée au SPD, le Parti Social-Démocrate, la future chancelière choisit les conservateurs de la CDU. C'est un parti catholique, masculin, sexiste. Elle est protestante, divorcée et vit sans être mariée avec Jonathan Sauer, un scientifique de renom qu'elle épousera des années plus tard. Mais elle incarne les valeurs de la Prusse, probité, sérieux, discipline, ardeur au travail. Le jour où elle prête serment devant le Parlement, la Constitution et Dieu, elle choisit un mot, servir. À un journaliste de Der Spiegel qui lui demande si elle est fière d'être allemande, elle répond « Je ne crois pas que les Allemands soient spécialement mauvais ou particulièrement merveilleux. J'adore les kebabs et les pizzas. Je pense que les Italiens ont une meilleure culture du café et qu'il y a plus de soleil en Suisse. » Simplicité et efficacité, un résumé de la recette Merkel qui continue malgré tout de tenir la barre quand toute l'Allemagne commence à douter.
Merci Tiffaine. C'est une très mauvaise nouvelle pour Angela Merkel. La chancelière allemande a perdu 12 points dans les sondages au mois de juillet. En avril 2015, avant la crise migratoire, 75% des Allemands la soutenaient. Depuis les attaques terroristes de l'été auxquelles ont participé 3 demandeurs d'asile, 65% s'élèvent contre sa politique d'accueil des migrants. Ce n'est pas la seule déconvenue pour la chancelière. Depuis le début de l'été, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Le pacte conclu en mars entre l'Union européenne et la Turquie pour contenir le flux de migrants traversant la mer Égée menace de s'effondrer. L'aggravation de la situation en Syrie et le délitement de l'accord sur les migrants annoncent de manière quasi certaine une reprise de flux migratoires que personne à Berlin ne sait plus comment gérer. Et parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, le putsch raté en Turquie et la répression qui a suivi provoquent des tensions en Allemagne où la communauté turque est la plus importante d'Europe. Enfin, le Brexit est considéré comme une grave défaite stratégique à laquelle Berlin n'a pas encore trouvé de parade. Bref, rien ne va plus en Allemagne. Les attentats terroristes ont donné de nouveaux arguments à ceux qui contestent la politique migratoire d'Angela Merkel et notamment à l'extrême droite. Fondée en 2013, l'AfD a prospéré en adoptant un discours anti-migrant. Avec 15% des intentions de vote pour 2017, il est en passe de devenir la troisième force politique du pays. Un tabou est tombé. La crise des réfugiés a réveillé les courants populistes dans ce pays qui, en raison de son passé nazi et du sentiment de culpabilité qui a suivi le drame de la Seconde Guerre mondiale, faisait jusque-là figure d'exception en Europe. Pour répondre à la menace terroriste et à la montée de l'extrême droite, la chancelière voudrait étoffer la politique de sécurité allemande. Elle envisage une déchéance de la nationalité pour les binationaux combattant dans des groupes djihadistes et une augmentation des moyens affectés à la sécurité. Mais sur le fond, elle ne change pas sa politique migratoire. « Nous allons y arriver », a-t-elle récemment promis. Pour en parler avec nous, Hélène Miard de la Croix, vous êtes germaniste et professeure à la Sorbonne. Vous avez copublié en 2016 « L'Allemagne entre rayonnement et retenue » aux éditions Septentrion. Bonjour.
Bonjour.
John Vinocur, ancien directeur du Herald Tribune, vous êtes éditorialiste au Wall Street Journal, basé à Paris, d'où vous couvrez aussi l'actualité allemande. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Hélène Miard de la Croix, 12 points en moins dans les sondages en un mois, c'est un recul spectaculaire.
Alors en effet, c'est très spectaculaire en un mois. Alors après, on peut partir que quand on peut considérer que quand on part de si haut, on peut encore descendre à 45% et se trouver devant tous les autres. Je pense que quand on regarde la cote de popularité de la chancelière, il faut bien distinguer entre sa personne, le parti qu'elle représente, la coalition gouvernementale qu'elle représente, qui n'est pas la même chose, et enfin l'État. Et il y a beaucoup de sondages actuellement en Allemagne qui montrent en effet des images assez variées de la confiance que peuvent avoir les Allemands. Les Allemands ont globalement, on le voit, notamment depuis les derniers attentats, très bien compris que l'Allemagne pouvait être une cible. Il y a plus de 75% des Allemands qui s'attendent à d'autres attentats, mais qui disent qu'ils ont confiance en la capacité de l'État à réagir et à les protéger. Pour autant, quand on fait des sondages régulièrement en Allemagne, s'il y avait des élections dimanche prochain, comment voteriez-vous ? La CDU, qui est le parti de Madame Merkel, arrive à 31%, c'est-à-dire moins qu'elle-même qui est à 45%. Donc, vous voyez, je pense que il faut toujours bien faire une distinction entre l'image de marque, d'une certaine façon, de la chancelière. On a assisté dans les 11 dernières années, puisqu'elle arrive au bout de son troisième mandat, à une personnalisation extrême de la politique en Allemagne. Et a une tendance à considérer que le gouvernement, c'est Madame Merkel. Le Parlement, qui quand même est le noyau central de la vie politique en Allemagne, a une majorité qui n'est pas que Madame Merkel et qui n'est pas que la CDU. Puisqu'elle est dans une grande coalition, c'est qu'elle a bien besoin de travailler avec l'autre grand parti, qui est donc le Parti Social-Démocrate, qui est aussi responsable, et qui responsable au sens positif aussi, des actions du gouvernement. Donc je pense que c'est quand, vu de France, on a tendance, et c'est normal, à dire l'Allemagne, c'est Merkel, et Merkel va bien, Merkel va mal, Merkel est inquiète, elle n'a pas l'air à l'aise sur les photos. Mais je pense qu'il faut avoir une lecture plus fine des choses si on veut comprendre ce qui va se passer dans ce pays.
Alors, il faut relativiser et savoir aussi s'éloigner des sondages, mais il est une question, John Vinokur, qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, Angela Merkel a eu tort d'ouvrir grand les portes de son pays aux migrants ? Est-ce qu'elle a fait une erreur ou...
Oui, c'était une erreur. Et c'était une erreur particulière, une sorte de désir, peut-être, de mettre l'Allemagne sur un autre plan historique et de sortir l'Allemagne de son passé naziste, mais non pas... par des dénis, parce que Madame Merkel est une personne de qualité, mais en créant l'idée internationalement et historiquement d'une Allemagne généreuse et exceptionnelle. Et l'Allemagne, au fond, n'est ni généreuse, il y a toujours un intéressement, l'Allemagne qui payait en Europe, payait en quelque sorte son passé, et l'Allemagne, par Madame Merkel, a offert des portes ouvertes sans limite. Hein. Elle n'a pas changé à ce jour cette promesse que tout le monde peut venir et on peut le faire. On sait maintenant qu'il y a des règlements en Allemagne qui cherchent dans la direction des limites, vont exercer des limites, mais son mot, sa parole n'a pas changé. Et c'est une erreur profonde, parce que les gens n'y croient guère. Une grande majorité des Allemands, que ce soit plutôt à droite, qu'à gauche, mais c'est pas une affaire uniquement de la droite. Quoi que c'est, il faut limiter l'accès des musulmans venant des pays arabes. Donc, au fond, une erreur de taille.
Hélène Miard-Delacroix, est-ce que vous pensez qu'Angela Merkel avait le choix ? Pouvait-elle faire autrement ? Et aujourd'hui, elle qui paraît toujours aussi isolée au sein de l'Europe sur cette question, est-ce que sa position est tenable à long terme ?
Alors, ce qui est intéressant quand on travaille sur l'Allemagne, mais c'est pareil pour tous les pays, c'est de voir les déterminations à long terme, si l'on veut, et les logiques. Comme vous l'avez dit très, très justement, il y avait une relative logique à ce que l'Allemagne ouvre ses portes. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit pour se racheter. Il y a aussi une logique des valeurs qui fondent la deuxième démocratie en Allemagne depuis 1949. Et puis, il y a une logique aussi de... On a été soi-même... Il y a eu quand même 12 millions de réfugiés allemands qui se sont déplacés entre 1945 et 1948, si vous voulez.
Et la personnalité d'Angela Merkel.
Voilà,
aussi,
plus sa personnalité. Donc, il y a une certaine logique. Ce que je trouve très intéressant de cette affaire... Oui. C'est que cette question à laquelle, vraiment aiguë, à laquelle l'Allemagne est confrontée, qui est d'intégrer presque 1,5 million de personnes étrangères d'une autre culture, d'une autre religion, d'une autre nationalité, etc., c'est que ça soulève des questions de fond
qu'il y a en Allemagne, qu'on peut retrouver chez ses voisins, mais qui taraude actuellement le débat, qui est la question de la nationalité allemande, la question de la citoyenneté et de la participation, c'est-à-dire de l'intégration de ces gens, et puis la question de la démocratie. On parle beaucoup, ces derniers temps, en Allemagne, de la capacité de la démocratie à résister à cet ébranlement, à ce choc, en particulier dans les conséquences sur le paysage politique de l'arrivée de personnes considérées comme étrangères, comme menaçantes, qui a libéré une parole populiste et qui a donc donné à peu près 13%, on évalue, de perspectives de voix pour un parti de populiste de droite. Donc c'est ça, je trouve, qui est très intéressant, c'est que cette question assez inattendue, il y a 5 ans, on n'imaginait pas que les choses allaient se passer de cette façon, remet sur la table des vieilles questions qui travaillent l'Allemagne depuis 50, 60 ans. La question de la nationalité, qu'est-ce que c'est qu'être allemand ? La question de la participation, de la capacité d'intégration de éléments étrangers. Et on lit tout et son contraire actuellement dans les débats. Les Allemands parlent beaucoup, discutent beaucoup. Il y a une nouvelle qui est tombée il y a quelques jours, selon laquelle des fils d'immigrés, si l'on veut intégrer, auraient créé plus d'1,5 million d'emplois par des petites entreprises en Allemagne. Donc il ne faut pas uniquement voir les étrangers comme des gens qui profitent du système. Et en même temps, on se remet à comptabiliser les étrangers, en particulier les Turcs, qui ont refusé la nationalité allemande, ceux qui l'ont pris la nationalité allemande, ceux qui ont gardé l'autre, qui ont la double nationalité, et qui sont descendus dans les rues il y a 15 jours à Cologne pour dire qu'ils soutiennent Erdogan et qu'Erdogan est leur président, donc posant des questions de loyauté de ces gens intégrés en Allemagne.
Alors la démocratie, l'identité, c'est aussi des choses qui font des thèmes qui font débat ici en France. John Vinokur, est-ce que je voudrais vous poser une question à deux tiroirs comme on dit. Est-ce que vous pensez que Angela Merkel a les moyens, ou que l'Allemagne plutôt a les moyens de faire face à un nouvel afflux de migrants, de réfugiés ? Et d'autre part, quelles ongles de choc observez-vous de la politique de Angela Merkel en Europe ?
Nous saurons mieux d'ici, dirais-je, la fin du mois de septembre. Il y a énormément de courants dans votre proposition à deux tiroirs.
Oui.
L'Europe, c'est une chose, le monde, c'est autre chose. L'Allemagne devrait, comme grand pays, s'engager en Syrie, et l'Allemagne doit, comme pays européen, s'engager sur les questions, ou la question de l'Ukraine. Nous ne saurons pas où va l'Allemagne avant que l'Allemagne change ou ne change pas sa politique vis-à-vis de la Syrie. La France est en guerre contre Daesh. L'Allemagne n'est pas seulement pas en guerre contre Daesh, mais l'Allemagne ne fournit pas des combattants comme font les Danois, les Belges. Les Danois envoient 4 F-16 afin de bombarder Daesh en Syrie. L'Allemagne envoie des avions de reconnaissance. Même chose vis-à-vis de l'Ukraine. Aujourd'hui même, nous ne savons pas si Poutine va attaquer l'Ukraine avant notre fin de semaine. L'Allemagne se garde pas de ne pas critiquer directement la politique de Poutine. L'Allemagne existe toujours dans son ambivalence vis-à-vis de la Russie. Madame Merkel n'aime pas Poutine, n'aime pas sa politique, mais elle est en coalition avec les sociaux-démocrates qui demandent qu'une chose, que l'Europe lève les sanctions sur les Russes pour leur annexation de la Crimée et leur présence militaire en Ukraine. Deuxième point, nous aurons des élections en Allemagne le 4 septembre. À Berlin pour le Parlement régional et également dans le Mecklenburg-Vorpommern, c'est la lande allemande au nord-est qui fait la frontière avec la Pologne sur la mer Balte. Là, hein, ce qui est, comment dirais-je, le siège politique de Madame Merkel elle-même, elle représente un district là, au Bundestag. Elle risque la plus grosse claque de sa vie parlementaire, c'est-à-dire une partie de droite populiste assez méchant, qui s'appelle l'AFD, risque de rentrer au Parlement avec 20%, 19-20% des voix, et un deuxième parti, NPD, brunâtre, donne l'odeur du nazisme, est tout à fait capable d'y pénétrer également. Alors, je dis, regardons d'ici la fin du mois de septembre pour voir comment Madame Merkel agit sur la scène mondiale vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Syrie, où ne bouge pas, et comment elle sera vue s'il y aura cette gifle dans l'élection de Lalande.
Hélène Millard Delacroix, après la Seconde Guerre mondiale, on a demandé aux soldats allemands de rester dans leurs casernes. Aujourd'hui, on leur demande de participer aux opérations extérieures et notamment d'être plus dynamiques dans les guerres qui sont auxquelles participent les pays occidentaux. Comment vous voyez cette armée évoluer ? Est-ce qu'elle peut changer aussi vite que ses partenaires occidentaux le lui demandent ? Et est-ce qu'elle peut aussi s'accompagner d'une diplomatie qui soit enfin plus dynamique et pas seulement liée à des intérêts économiques ?
Alors, pour répondre à votre question, là aussi, puisque vous partez de l'après-guerre, c'est important de rappeler cette après-guerre. Après-guerre, on n'a pas demandé aux soldats allemands de rester dans leur caserne. Après-guerre, il n'y avait plus d'armée allemande.
Oui, c'était une manière de...
Non, mais c'est important parce que il y a eu, avant la reconstitution d'une armée allemande qu'on appelait la Bundeswehr, en 1955, 10 années pendant lesquelles, dans le cadre de la dénazification et démilitarisation, on a expliqué à la population que tout ce qui était militaire, tout ce qui relevait d'uniformes, d'armes, etc., était détestable. Et quand on a reconstitué une armée, c'était une armée considérée comme composée de citoyens en uniforme, c'est la formule, c'est-à-dire des soldats qui sont là comme des citoyens et non pas quelque chose, un corps extérieur qui serait par-dessus l'État et qui pourrait prendre le pouvoir, qui est au service de la société, qui est au service des civils, et dont, ça c'était l'alliance de l'OTAN à laquelle l'Allemagne a adhéré aussi en 1955, était une force qui n'était envisageable que intégrée dans un système collectif et où il ne pourrait y avoir d'opérations extérieures en dehors de l'espace OTAN. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'armée allemande était plutôt considérée comme un élément supplétif soutenant l'alliance occidentale. Alors, on a, d'une certaine façon, dû rompre un tabou au moment de la guerre de Yougoslavie. Et là, à l'époque, c'était le ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer-Wehr, qui a expliqué que pour des raisons morales, l'Allemagne ne pouvait pas rester, comme vous le dites, dans ses casernes ou plutôt derrière ses murs en disant « nous, ça ne nous concerne pas, nous n'intervenons pas ». Et progressivement, l'Allemagne a fait ce chemin très compliqué de participation à des interventions extérieures. Mais comme le disait Wiedekur tout à fait justement, ces participations sont... On est à la fois actif et pas tout à fait actif. Alors, c'est très drôle parce que dans la presse allemande, on considère aujourd'hui que les Tornado avions de reconnaissance que l'Allemagne a envoyés en Syrie, c'est déjà presque trop, puisque ça rend l'Allemagne, d'une certaine façon, l'une des cibles du terrorisme international. En revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est la situation, c'est l'attitude et la position de l'opinion. On a tellement bien dénazifié et démilitarisé, si vous voulez, les esprits, que la population allemande dans son ensemble n'est pas prête à accepter que des soldats meurent au combat à l'extérieur. Alors, il y a eu, là si on reprend les 10 dernières années, si on s'amuse à reprendre les médias, il y a des soldats qui sont morts en Afghanistan, en particulier des soldats allemands, quelquefois dans des accidents de voiture, des mines, des choses comme ça. À chaque fois, c'était un drame national. Alors, en France, on est toujours, je le répète, on est toujours extrêmement triste et on fait honneur aux soldats français morts dans les opérations extérieures, mais ça ne prend pas cette espèce de résonance en Allemagne d'une population qui ne veut pas que des soldats allemands aillent mourir ailleurs. Donc ça, c'est déjà, vous avez compris la réponse que je vais vous donner, il y a un chemin à parcourir. Et pour avancer un dernier point, je me souviens, j'étais en Allemagne au moment après le 13 novembre. J'ai été interviewée par des médias allemands qui me demandaient « Mais comment osez-vous dire que vous êtes en guerre ?» C'est quand même infernal de dire que la France est en guerre. Ce mot « guerre » est insupportable. Or, si on écoute ce qui a été dit fin juillet, après les différents attentats, dont on ne savait pas d'ailleurs s'ils étaient rattachés au terrorisme international ou pas, le mot « l'Allemagne est en guerre contre le terrorisme » est tombé. Donc, vous voyez, il y a des petits passages. Et ce qu'a proposé Thomas de Maizière il y a quelques jours, qui ne va pas être accepté dans son ensemble par la coalition, ça va exactement dans le sens de ce que la France a proposé en novembre.
Si le colonel Goya était resté avec nous pour cette deuxième partie, je ne doute pas qu'il aurait rappelé qu'on ne crée pas une armée combattante en un an, en deux ans ou même en trois ans, et qu'il faut parfois des décennies à la fois au niveau des équipements, mais au niveau de la modification des esprits pour arriver à ce résultat. John Vinocur, vous vouliez ajouter quelque chose?
Juste pour être d'accord. Et puis pour ajouter une pointe de pique, pendant deux années successives, il y avait des sondages, une américaine et puis un sondage allemand cette année, avec la question si les pays baltes, et cette année les pays baltes et la Pologne, auraient été attaqués par la Russie. Voulez-vous, les Allemands, venir en aide de par l'article 5 de la charte de l'OTAN, ce qui veut dire toute action contre une guerrière, contre un des pays membres, est une action contre. Les Allemands ont rejeté par claire majorité à deux reprises de répondre oui. La réponse était non. Un autre petit exemple. La semaine dernière, Madame Merkel a dit « Nous ne sommes pas en guerre avec l'Islande. Nous, le mot en allemand « kämpfen », nous bataillons contre le terrorisme salafiste. » Elle a pris 4 ans, de 2005 jusqu'à 2009, à dire que les troupes allemandes ont été en guerre en Afghanistan. Et cette année, pour la première fois, l'Allemagne est sortie, ce qu'on appelle un papier blanc, hein, de doctrine militaire, où on n'a pas parlé de menace russe. En Europe, on a parlé d'un défi russe qui contredisait les mots exacts du communiqué du dernier sommet de l'OTAN où la Russie est décrite comme une menace à la paix, à l'ordre, et puis à l'ordre post, après la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Donc, l'Allemagne ne joue pas vraiment le rôle qu'elle pense ou qu'elle projette parfois qu'elle a.
Hélène Mière de la Croix, en une toute petite dizaine de secondes, voire 20, je voudrais vous poser cette question immense qui mériterait une heure de débat. Le Brexit a laissé l'Allemagne et la France en tête à tête. Comment va ce couple aujourd'hui ?
En effet, il faudrait un petit peu plus de temps. Le couple va comme il doit aller, c'est-à-dire il n'a pas d'autre solution que de faire des choses ensemble. Je crois que c'est la réponse la plus simple qu'on puisse donner. L'Allemagne ne peut pas trouver d'autres partenaires en Europe. La Pologne est extrêmement décevante du point de vue allemand. L'Italie va pas très très bien. L'Espagne est aussi empêtrée dans des difficultés. On n'a pas d'autre choix à Berlin que de travailler avec Paris.
Et voilà, c'est dit, c'est la fin de ce second débat aussi. Il est l'heure de retrouver la chronique d'Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour. Dans ma série d'été sur les idées justes, qui à la longue risque de se caricaturer, je vais aborder aujourd'hui, un dimanche, cela tombe bien, la laïcité. Au départ, rappelons-le, en Europe et en particulier en France, cela a été un long combat pour arracher à l'Église catholique le contrôle total qu'elle a exercé pendant des siècles sur la société, les croyances, les pensées, les arts, l'enseignement, l'expression publique, le calendrier, et aussi, sans aucune distinction entre la vie publique et la vie privée, comme c'est le cas dans l'islam aujourd'hui dans sa version fondamentaliste, même sur la sexualité et la famille. Après des précurseurs qui ont souvent payé dans leur vie le besoin de liberté de pensée, après le grand schisme du protestantisme d'où est sorti le monde moderne, cette lutte pour cantonner la foi dans la sphère privée aboutit en France, après des affrontements homériques, au vote de la grande loi sur la séparation de l'Église et de l'État, magistralement obtenue en 1905 par Aristide Briand. Pour l'appliquer, l'honnêteté oblige à dire qu'il a eu de vraies violences contre les religieux et que l'Église catholique et ses fidèles durent se soumettre de gré ou de force aux lois de la République. L'armée a même été employée contre certaines congrégations. Il y aura longtemps ensuite de vifs combats résiduels, crucifix, enseignements, etc. Et d'ailleurs, des siècles de chrétienté imprègnent encore le langage, le calendrier, l'architecture, les paysages de l'Europe et même les mentalités, y compris chez ceux qui s'en croient les plus éloignés, par exemple l'esprit missionnaire ou d'ingérence, qui est la même chose. Mais le compromis, raisonnable et équilibré, a tenu et la question paraissait réglée. Mais voilà, près d'un siècle après, la controverse ressurgit. Pas à propos du catholicisme, ni du judaïsme, celui-ci ayant été vigoureusement efficacement organisé par Napoléon, et secouant cette religion ne représentait à l'époque même pas 0,002% de la population, mais à propos de l'islam en France. Question qui ne se posait pas du tout en 1905. Les 5 à 6 millions de musulmans de France sont redevenus pour beaucoup d'entre eux plus ostensiblement pratiquants que leurs parents ou grands-parents, ce qui est évidemment lié à la résurgence du fondamentalisme musulman, sans même parler des djihadistes, qui est encore un autre sujet. Face à cela, les républicains, comme on dit, divergent. Faut-il absolument, au nom d'une laïcité stricte, s'opposer à toute manifestation publique de foi musulmane? C'est la question du voile, d'autant plus que les islamistes affichent, eux, une volonté prosélyte, exploite la mansuétude de ceux qui ne veulent pas de stigmatisation de l'islam, autre formule fétiche. La plupart des musulmans modernistes ou réformateurs maghrébins, confrontés chez eux à une pression constante, espèrent que nous ferons barrage chez nous à cette offensive. Ou faut-il au contraire être plus accommodant, tolérer certaines manifestations vestimentaires ou culinaires, jugées marginales, en nombre si ce n'est en symbole, justement pour ne pas stigmatiser les musulmans, ou en raison du passé colonial, ou pour ne pas alimenter la dénonciation islamiste, etc. Mais sur quelle ligne passer ce compromis? Et au sein de l'islam sunnite, quel responsable musulman pourrait s'engager à le faire respecter par l'ensemble de leurs fidèles? Invoquer la République, à la fois cadre institutionnel et valeur, ne donne pas la réponse. C'est trop vague. Par ailleurs, pour certains en France, notamment à gauche, la laïcité signifie que la religion ne devrait plus compter du tout, en dehors de la sphère privée, et que la laïcité ne doit être accompagnée d'aucun autre adjectif. C'est pour cela d'ailleurs que le pape François trouve que la France exagère dans sa définition de la laïcité. De toute façon, c'est s'aveugler, visible ou souterrain, le rôle de la religion dans le monde reste évident. Finalement, faut-il être intransigeant, refuser toute manifestation trop ostentatoire de la foi musulmane ou autre, comme traduisant un refus total et inacceptable d'intégration dans la République, ou faut-il au nom de la liberté, du pragmatisme, du vivre ensemble, autre mantra, s'accommoder de manifestations religieuses visibles, mais jugées secondaires, sans conséquence, et vouées à s'atténuer avec le temps? Est-ce possible, en ce moment, avec un islam redevenu très militant et prosélyte, où les modérés semblent dépassés et impuissants? Où placer le curseur? Il faudrait pour cela un nouvel Aristide Briand. Et comment appliquer les nouvelles règles? Tout cela laisse songeur.
Merci Hubert Védrine. Une semaine dans le monde se termine. Un grand merci à nos invités, Hélène Miard de la Croix, John Vinocure, Michel Goya, Alain Kodmani et Dominique Thomas. Cette émission d'Isabelle Lasserre a été réalisée par Philippe Baudouin avec la collaboration de Tiffaine de Rocchini et de notre stagiaire Rémi Baille. À la technique aujourd'hui, Jean-Guillaume Meige. Vous pouvez réécouter cette émission ou la podcaster sur le site de France Culture. Dans quelques instants, vous retrouverez Michel Onfray et sa brève encyclopédie du monde. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve dimanche prochain pour une autre semaine dans le monde.